Voilà qu'une autre merveilleuse journée s'offre à nous, un beau petit matin qui nous ouvre ses bras, n'est-ce pas? Un don de Dieu, un don de l'Éternel qui a fait en sorte que ce jour trouve existence et nous aussi. Alors bonjour et bienvenue à l'émission Parole du matin. Raymond Perron, ici comme chaque matin du lundi au jeudi, qui vous accueille et qui le fait avec grande joie et qui est très reconnaissant de votre fidélité à cette émission-là. Je vous remercie également pour les différents commentaires que nous recevons et qui représentent autant d'encouragement. Vous savez, on reçoit des commentaires d'un peu partout, hein? Pas uniquement du Québec, pas uniquement du Canada, mais même de d'autres pays où des gens nous écoutent, soit en différé ou par Internet. Alors voilà, donc nous retournons à notre épître, à notre lettre qui fait l'objet de notre considération depuis déjà quelques émissions, à savoir l'épître de Paul aux Galates. Et j'espère que même si le sujet, le thème est un peu toujours le même, bon, ce n'est pas nécessairement redondant, mais c'est le même thème qui revient, je me permets d'espérer que vous ne trouvez pas cela fastidieux, parce qu'on a vraiment besoin de considérer tous les aspects, tous les détails, tous les tenants et les aboutissants de cette formidable doctrine de la justification. Et puisqu'il a paru au Seigneur, il lui a paru bon, n'est-ce pas, de donner cet épître-là par la plume de Paul, c'est parce que c'est certainement fort intéressant, fort important. Où en sommes-nous? Chapitre 3, versets 15 à 18. On ne finira pas encore le chapitre ce matin, mais on va lire quand même ces quelques versets-là. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, ou on pourrait aussi traduire une alliance en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule « et à ta descendance », c'est-à-dire Christ. Voici ce que je veux dire. Une alliance ou un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par lui survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Alors voilà ce que nous allons considérer aujourd'hui. Tout au long de ce chapitre 3-là, hein, on voit que Paul littéralement s'évertue, il s'escrime à qui mieux, afin de démontrer que la justification vient par la foi et non par les œuvres. C'est intéressant, hein? Même lorsque on jette un regard rétrospectif, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église. Bon, dans l'Église primitive, on commence avec le salut par la foi, mais ça ne dure pas très très longtemps. Dans les siècles qui ont suivi, voilà que les œuvres prennent le pas et finalement qu'on doit mériter et gagner son salut. Hein? Et on y revient encore et encore, et bien sûr, on n'a qu'à penser à la grande réforme protestante là du 16e siècle qui a à nouveau ramené cette importante question du salut par la foi. Il semble que l'homme naturel, hein, l'homme d'après chute, a cela dans ses gènes en quelque part, là, qu'il croit pouvoir mériter son salut. Donc Paul s'évertue à démontrer que la justification ne vient pas par les œuvres, mais vient par la foi. Alors on l'a vu. Premièrement, il a fait appel à l'expérience. L'expérience et la réception du Saint-Esprit par les Galates, au chapitre 3, versets 1 à 5. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il a fait intervenir l'Écriture. Il a fait appel au récit biblique d'Abraham, l'homme de foi, les versets 6 à 14, ce que nous avons vu d'ailleurs lors de notre dernière émission. Et maintenant, il va conclure avec son point théologique. Il va étayer son point théologique, et pour ce faire, il fait appel à une très, très, très bonne illustration au verset 15, une illustration tirée du monde de la jurisprudence. Alors, ça se lit comme suit ce verset 15-là. « La loi et la promesse, frère, je parle à la manière des hommes. Une alliance en bonne forme ou un testament en bonne forme bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Alors, nous avons le mot « diathéke » ici, qu'on peut traduire effectivement par « entente », par « alliance », mais je pense que, mais j'affirme catégoriquement que la traduction « testament » est excellente. Voyez-vous, il n'est pas ici question d'un contrat légal dans le cadre d'une transaction d'affaires. Il n'est pas question ici de deux personnes égales, qui ont un statut égal, qui s'assoient ensemble et qui commencent à négocier, et chacun met ses conditions, on fait chacun ses compromis, oui, je te concède ceci dans la mesure où tu me concèdes cela, et finalement, après moult échanges et maintes considérations, on finit par dire, voilà, tape là, hein, on conclut l'entente, on vient de faire alliance. Absolument pas. Parce que Paul utilise le mot diathéke, qui se traduit aussi par alliance, mais aussi par testament, et c'est bien cette dernière signification que l'apôtre a à l'esprit ici, c'est-à-dire un testament, hein, les dernières volontés. Un testament, ce n'est pas un contrat, comme on vient de le dire, dans lequel sont établis les termes que chaque partie est dans l'obligation de remplir. Non, un testament, là, tout ce que ça fait, ça déclare officiellement, légalement, ce qu'une personne a l'intention de faire. Donc, un testament, c'est un arrangement légal dans lequel quelqu'un lègue ses biens à quelqu'un d'autre. C'est un don, c'est pas un marché, c'est pas un bargain. Maintenant, si c'est comme cela, s'il en est ainsi à l'échelle humaine, c'est encore bien plus vrai lorsqu'on en vient à l'alliance que Dieu a établie par le biais d'Abraham. Il s'agit donc ici de ce que nous appelons un argument a fortiori. Hein? Vous savez c'est quoi un argument a fortiori? Si une chose est vraie dans telle circonstance, à combien plus vraie l'est-elle dans d'autres circonstances? Alors ce qui est vrai ici dans la cour humaine a encore une bien plus grande force dans la cour du Dieu Tout-Puissant. L'analogie donc du testament, elle est fort appropriée en raison de points communs avec l'alliance ou le testament abrahamique, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Voyons donc les conditions de cet arrangement-là que l'Écriture appelle effectivement une alliance en Genèse 15 et en Genèse 17. En fait, ce que Dieu révèle à Abraham, c'est une sorte de testament. Ce n'était pas un contrat entre deux égaux. Hein? Dieu n'est pas venu voir Abraham pour lui dire « Écoute Abraham, moi j'ai un salut ici, là, j'ai une justification en réserve pour toi. Maintenant, toi, quelle part est-ce que tu vas faire pour mériter tout cela? » Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Au contraire, l'alliance ou le testament que Dieu fait avec Abraham, au contraire, contient une longue liste de choses que Dieu promet de léguer, que Dieu promet de laisser à Abraham en héritage. Et à cette époque-là, en époque lointaine, les ententes légales n'étaient pas scellées par une poignée de main ou par un document écrit, un document officiel, mais bien plutôt par le sang dans une cérémonie alliantielle. Permettez-moi de vous lire quelques versets, seulement quelques-uns, le brièvement, tirés effectivement de la Genèse, d'abord au chapitre 15, versets 9 et 10, et ensuite versets 17 et 18. Et l'Éternel, Yahweh donc, dit à Abraham, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Qui est-ce qui y est passé entre les animaux? C'est Dieu seul, n'est-ce pas? C'est pas Abraham. Ce que Dieu est en train de dire, voici ce que je vais te léguer. Et voici, n'est-ce pas, la confirmation de cela, je passe entre ces animaux-là. Ça veut dire que si l'alliance qu'on vient de faire n'est pas respectée, ben, il y aura un châtiment, il y aura une punition, il y aura bien sûr un jugement, hein, comme le jugement que préfigurent ces animaux-là, mais c'est l'Éternel lui-même qui l'a subi, on sait très bien, par le biais du Christ Jésus, lorsque ce dernier est venu verser son sang pour sceller l'Alliance. Donc les animaux furent sacrifiés, et Dieu est passé entre eux, et ainsi, il a validé l'Alliance qui le liait légalement donc avec Abraham. Il lui a légué son testament. Le point de Paul ici, c'est le suivant. Ce que Dieu s'est engagé à faire par alliance cette nuit-là demeurait en force pour toujours. Paul considère la promesse d'Abraham comme un engagement divinement ratifié, et ce dernier a priorité sur la loi et ses clauses. Ne pouvait d'aucune façon être déclaré nul et non avenu par la loi qui serait introduite plus tard. Voyez-vous, le testament que Dieu a fait avec Abraham, l'alliance que Dieu a faite Abraham, ne pouvait d'aucune façon être déclaré nul et non avenu par l'introduction de la loi qui est venue beaucoup plus tard. On n'ajuste pas les termes d'un testament, encore moins d'un testament divin. C'est dire qu'une fois que Dieu a dûment établi son alliance, elle ne pouvait être annulée, elle ne pouvait être amendée, elle était simplement permanente. Parlons maintenant, comme premier point, des parties de l'alliance. Il y avait deux parties. Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec les Galates et qu'est-ce que tout ceci a à voir avec nous? Ben Paul répond à cette question-là en identifiant en effet les parties de l'alliance. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Alors, on sait que Dieu a répété ses promesses à Abraham à plusieurs autres occasions, hein? Et ici, Paul met l'emphase sur ce point particulier du mot « postérité ». Du mot « descendant » qui apparaît au singulier, hein, et non pas au pluriel, non pas « à tes descendants », mais « à ta descendance », « à ta postérité ». Paul n'était pas sans savoir que la postérité d'Abraham serait aussi nombreuse que le sable de la mer et que les étoiles du ciel. Mais ce qu'il veut vraiment faire ressortir ici, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que ces promesses d'alliance font référence à quelqu'un. En particulier, la promesse d'une postérité fait bien sûr premièrement référence à Isaac, hein, le fils surnaturel en quelque sorte d'Abraham, qu'Abraham a eu dans son vieil âge. Mais ultimement, elle pointe vers les enfants de Dieu et tout spécialement vers Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, la postérité, la descendance. Jésus est la véritable postérité, la véritable descendance d'Abraham. Il représente l'autre partie de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, alliance qui a tout à voir avec Jésus-Christ. Et ça explique pourquoi au verset 8, Paul écrit que l'Évangile a été prêché à Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé l'Évangile ou annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est en lui que toutes les nations de la terre sont bénies. Voilà comment l'alliance de Dieu avec Abraham a quelque chose à voir également avec nous. Parce que, comme Paul l'a exprimé plus tôt dans ce chapitre-là, ce chapitre 3, nous n'avons pas à être liés biologiquement à Abraham pour se réclamer de son héritage. Ah, moi, je suis fils d'Abraham parce que j'ai eu une prise de sang et effectivement, j'ai le même sang qu'Abraham. Pas du tout. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la foi en Christ Jésus. Les vrais fils d'Abraham ne sont pas identifiés biologiquement, mais ils sont identifiés christologiquement. Vous voyez, la promesse de l'Alliance était réellement pour le Christ, de sorte que lorsque nous appartenons au Christ, lorsque par la foi nous sommes placés en lui, ben la promesse devient nôtre. C'est la belle doctrine de notre union avec le Christ Jésus. Et c'est ainsi que Paul ne terminera pas ce chapitre 3 sans insister sur cette réalité. Hein, au verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Hein, » Vous êtes fils de Dieu. Tous fils de Dieu par la foi en Christ. Tous ceux qui ont la foi en Christ sont fils de Dieu. Et encore une fois, verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Il y a une condition d'être en Christ, voyez-vous, par la foi d'être placé en lui. Maintenant, la promesse de l'Alliance. C'est là mon deuxième point. Promesse, c'est un mot clé dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Il revient, vous pouvez le compter vous-même, en tout cas moi je l'ai compté dans l'original grec, là. Il revient à 8 reprises dans les 15 derniers versets. Il y en a de la promesse, mes amis, dans les 15 derniers versets. Et c'est ce que Paul nous dit quant à cette promesse de l'Alliance, c'est qu'elle vient avant la loi. La loi est venue après. Revoyons brièvement le tout de l'argument de l'apôtre Paul. Verset 15. Le verset 15 décrit la permanence de l'Alliance établi une fois pour toutes avec Abraham. Le verset 16, lui, identifie les parties de l'Alliance. Hein? La promesse de Dieu à Abraham était aussi et ultimement à Christ et à tous ceux et celles qui seraient en lui. Et ensuite, Paul clarifie la promesse de l'Alliance en disant au verset 17, « Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement, ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi, survenue 430 ans plus tard. » Alors, la promesse et la loi sont deux arrangements séparés. Oui, bien sûr complémentaires, mais deux arrangements séparés. Ils opèrent, voyez-vous, sur deux principes entièrement différents, à savoir foi et œuvre. La promesse opère sur la foi, et la loi sur les œuvres. La promesse, elle, elle est au sujet de ce que Dieu fera, alors que la loi, elle est au sujet de ce que nous devons faire. Et la différence entre les deux saute évidemment aux yeux quand on regarde à la rhétorique là, que l'apôtre Paul utilise hein, lors de l'alliance avec Abraham, où Dieu dit « Je ferai, je ferai, je ferai », alors que dans la loi de Moïse, Dieu dit « Tu feras, tu feras, tu feras ». Alors, la loi et les promesses, ce ne sont pas, enfin, je dis bien, la loi et la promesse, ce sont deux mouvances entièrement différentes. La promesse fait toute la place à Dieu, au plan de Dieu, à la grâce de Dieu, à l'initiative de Dieu. La loi, elle, elle établit une religion d'homme. Le devoir de l'homme, les œuvres de l'homme, la responsabilité de l'homme. Promesse, donc, est synonyme de grâce de Dieu. La promesse n'a qu'à être crue, mais la loi, elle, synonyme d'œuvre humaine, se doit d'être obéie. Mais attention, ici, lorsque nous disons que la promesse n'a qu'à être crue, nous ne faisons pas référence justement qu'à un simple assentiment, mais bien à un engagement envers Dieu, à une appropriation de toutes les promesses qui sont en Christ Jésus. Donc, promesse et loi. Deux principes différents et deux principes asymétriques. Il n'y a pas de parité entre les deux, alors que l'un a priorité sur l'autre. Dans l'alliance de grâce, la promesse a préséance à la loi. La loi est secondaire, en fait, dans l'histoire de la rédemption. Pour bien comprendre le rôle de la loi, là, encore un petit peu de patience, on va en parler lors de notre prochaine émission. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Qu'est-ce qu'a fait là, finalement, la loi? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans le dossier? Quel est son rôle dans l'équation? Bien, on va voir ça lors de la prochaine émission. Mais la loi, elle est secondaire dans l'histoire de la rédemption. La promesse est venue avant la loi, c'est pour ça que la loi est secondaire. Dieu a donné la promesse à Abraham 430 ans, presque un demi-millénaire, avant de donner la loi à Moïse. Et c'est le cœur de l'illustration de Paul. La promesse à Abraham représentait une alliance, hein, irrévocable, un testament, ayant effectivement le même statut qu'un testament en bonne et due forme. La loi ne pouvait pas remplacer la promesse. Ça veut dire que l'Évangile a beaucoup plus à voir avec Abraham qu'avec Moïse. Si la loi avait été nécessaire pour le salut, pauvre loi, elle serait venue trop tard pour Abraham, 430 ans après sa mort, pauvre garçon, il n'y aurait plus jamais de sauvé. Mais non, si la loi avait été nécessaire pour le salut, elle serait venue trop tard pour lui. Donc le salut d'Abraham et des fils d'Abraham par la foi ne repose pas sur ce qu'Abraham a fait, mais bien sur ce qu'Abraham a cru, sur la promesse que Dieu lui a faite. Et ça m'amène à mon troisième point, les héritiers de la promesse. Puisque l'alliance est fondée sur la promesse, elle ne peut venir de la loi. C'est l'incontournable conclusion de l'apôtre au verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Si Dieu a promis un héritage, il doit venir par la promesse et non par les œuvres. Tout ceci pour dire que Dieu a commerce avec nous selon sa promesse et non selon nos performances. Si Dieu avait commerce avec nous selon nos performances, écoutez, on ferme boutique. Il ne reste que l'enfer. Il ne reste que le jugement éternel. Le psalmiste le dit très, très souvent, « Souviens-toi de moi selon ta miséricorde et non pas selon mes fautes, selon mes péchés. » Donc, si Dieu avait commerce avec nous selon nos performances, on serait misérable. Mais pour les Galates autres, il en allait pour les Galates comme pour Abraham. Et c'est encore la même chose pour nous. Nous sommes justifiés par grâce, par le moyen de la foi. Et comment ça fonctionne une promesse? D'abord, on ne peut gagner une promesse. La seule façon de recevoir une promesse, c'est d'y croire. Une illustration toute simple. Mettons qu'un bienfaiteur bien nanti promet de me donner une maison, mettons à Bora Bora, un beau paradis terrestre. Il n'y a rien que je puisse faire pour accomplir cette promesse-là, sinon que croire qu'il va tenir parole. Or, je peux décider par prudence de me bâtir moi-même une petite maison juste au cas où le bienfaiteur ne tiendrait pas parole, mais je ne peux pas accomplir à sa place sa promesse à mon égard. Il en va ainsi pour les promesses de l'Alliance de Dieu. Seul Dieu peut les accomplir. Conséquemment, lorsqu'on nous promet le salut, on ne peut le gagner nous-mêmes. Romains chapitre 4, verset 13-14. « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est inutile, elle est annulée. » Voilà une autre parole de l'apôtre Paul en Romains. Et tout cela nous amène à la conclusion suivante. Dieu a commerce avec nous selon sa promesse et non selon nos œuvres ou nos performances. Tout ce que Dieu a à offrir vient par promesse. Le salut en Christ ne repose pas sur la loi que nous transgressons inévitablement, mais sur une promesse que Dieu ne peut manquer de tenir. Dieu nous a promis, qu'est-ce qu'il nous a promis Dieu? Il nous a promis le pardon des péchés par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il a promis la vie éternelle. À qui? Il a promis cela à tous ceux et celles qui viennent au Christ par la foi. Le salut, donc, ce n'est pas une transaction commerciale. C'est dire que ma relation avec Dieu ne repose pas sur ma capacité de faire un deal avec lui, mais repose entièrement sur la foi en sa promesse gratuite, et sa promesse, elle est donc à portée de foi. Une question demeure bien sûr dans notre esprit. Mais quelle est donc la place de la loi? J'y reviens encore. Pourquoi Dieu l'a-t-il donnée? Quelle est sa pertinence dans l'histoire de la rédemption? Qu'a-t-elle à voir avec nous aujourd'hui? Ce sont là d'excellentes questions auxquelles la Bible répond clairement. D'ailleurs, dans notre prochaine émission, nous verrons la réponse de Paul à ce propos-là. Nous verrons que l'évangile de grâce n'est pas une offre anarchique ou une offre antinomienne qui va contre la loi, mais en ce qui concerne la justification, il nous faut être bien au clair, c'est par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul et à la seule gloire de Dieu. Alors, la loi ce n'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire, c'est un don de Dieu. Et la loi, vous savez, elle représente le caractère parfait de Dieu. Alors, elle ne peut être abolie, elle ne peut pas être annulée. Tout ce qu'elle peut être, c'est être accomplie. Et comme on ne l'a pas fait nous-mêmes, ben il fallait que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Ah ben là, je viens de vous donner déjà un indice pour la prochaine émission. Mais celle de ce matin se termine comme cela. Elle revient, bien sûr, en rediffusion, comme chaque jour, à 14h. Et entre-temps, bon, s'il vous plaisait de nous contacter, de nous écrire, pour quelque raison que ce puisse être, nous avons une adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, 40088, Québec, G1H2S5. Numéro de téléphone, la région de Québec, 418-688-0506. Nous avons une boîte vocale, on n'a pas de téléphoniste, malheureusement, hein? Mais on a une boîte vocale qui va prendre votre message au 418-688-0506 et ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Voilà, 1-877-659-0251. Et si vous voulez aller sur notre site internet, nous avons aussi, bien sûr, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons des adresses courriel. Alors, notre site internet, c'est foifm.com, foifm.com. Merci encore de votre généreuse participation, votre généreuse présence ce matin à l'émission et passez une excellente journée et j'espère bien à la prochaine, hein, que Dieu vous bénisse.